cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 13 novembre 1991.
Nous avions vu la dernière fois comment la seconde interrogation en quoi est l'être, interrogation qui, dans l'ordre de l'expérience l'activité artistique permet de préciser la matière. Quand on est en face d'une œuvre d'art, puisque la connaissance artistique représente ce qu'il y a de premier génétiquement dans notre recherche philosophique, de ce qu'est cette œuvre et en quoi elle est. Il faut toujours revenir à cela, parce que c'est là où on comprend le mieux cette première distinction entre ce qu'est cette réalité. Permet de découvrir la forme, la détermination de la réalité. Et ce qui nous permet de préciser la matière. Mais la distinction matière et forme est une distinction qu'on découvre en premier lieu à partir de l'œuvre d'art. Il faut tout le temps revenir à là. Je crois que là, on ne peut pas la refuser, là, la distinction matière et forme. Et Aristote prend l'exemple très simple du cercle qui est fait en airain, en bois, en fer, qui montre par le fait même la distinction. C'est toujours le cercle, mais qui se trouve réalisé dans l'airain, dans le fer, dans le bois. Là, la distinction se réalise dans des réalisations distinctes. Et donc, elles sont tangibles. Et ceci, on voit très bien en fonction de Platon, découvre la forme en elle-même et qui la sépare des diverses réalisations matérielles. L'homme se trouve en Pierre, en Jacques, Jean. Et Aristote veut montrer que, au fond, ce que Platon dit est juste dans l'ordre. Dans l'œuvre d'art, mais n'est plus juste dans la réalité concrète de l'homme, c'est-à-dire les réalités naturelles. C'est toujours son souci. Et pour nous, c'est intéressant, puisque, de fait, cette distinction matière et forme, nous devons la redécouvrir. Il ne faut pas simplement la répéter. Il faut que nous voyions que notre intelligence, quand elle analyse, la première analyse que nous faisons, c'est de découvrir la détermination et l'indétermination. Et je dirais que pour nous, c'est très important, parce qu'on retrouve la même distinction dans notre vie. Il y a des choses déterminées, des choses indéterminées. Et cette distinction, elle est premièrement découverte dans l'œuvre d'art. ce n'est que ensuite qu'on la transpose analogiquement dans le domaine spéculatif. Nature-forme, nature-matière. Mais je comprends bien la distinction nature-forme, nature-matière par rapport aux réalités physiques. Que si j'ai d'abord compris cette distinction au niveau de l'œuvre d'art. C'est au niveau de l'œuvre d'art que je dirais qu'elle est évidente. Quand vous voulez comprendre ce qu'est une œuvre d'art, vous vous posez tout de suite la question. Aussi bien l'artiste que celui qui l'expérimente, qui la goûte, qui la contemple. Nous pouvons transposer analogiquement cette question au niveau de l'être. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que c'est toujours l'homme qui cherche la vérité le plus loin possible. Je vais de l'œuvre d'art à l'être. Mon itinéraire est tout le temps comme ça. De l'œuvre d'art à l'être. De l'activité éthique à l'être. Si je veux réfléchir tout simplement sur ma manière de contacter, d'expérimenter la réalité. Quand je me pose la question par rapport toujours à l'homme, hein, n'oubliez jamais que première, c'est-à-dire en métaphysique, c'est toujours l'homme, c'est pas l'animal. L'animal, on l'a traité en philosophie du vivant. Et en philosophie du vivant, on sait très bien que là encore, c'est l'homme en premier lieu. Mais je m'intéresse à l'animal en philosophie du vivant. En métaphysique, je m'intéresse pas du tout à l'animal. Parce que la métaphysique ne me dit pas grand-chose sur l'animal. Il faut essayer petit à petit de comprendre cette parole d'Aristote qui est très forte. Et la comprendre pour justement en voir toute la signification. On fait la métaphysique pour découvrir ce que c'est que le nous, l'intelligence et Dieu. Je ne fais pas la métaphysique pour découvrir ce que c'est que l'âne ou la vache. Pas la peine. Ça ne m'apprend pas grand-chose sur la vache quand je fais la métaphysique. Mais ça m'apprend beaucoup sur l'homme. C'est très curieux. Hein. De temps en temps, vous posez la question et puis voir ce que ça veut dire, ça. Parce que c'est intéressant. C'est là que le fameux problème qu'on se pose tout le temps. Je me souviens des étudiants au seul soir, quand je commençais d'enseigner la métaphysique. Ils disaient tout le temps, mais est-ce que la vache a une substance? Ça m'est bien égal. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Se poser la question si la vache est une substance. Ce que vous ne pourrez jamais répondre. Alors ne vous posez pas des questions que vous ne pouvez pas répondre. La vache a une nature. Elle est la substance de la vache. Si la substance, c'est la cause de ce qui est, c'est l'autonomie dans l'ordre de l'être. Chercher l'autonomie dans l'ordre de l'aide de la vache. Pas très grand comme autonomie dans l'ordre de l'être. Est-ce que la vache veut brouter? J'ai posé la question l'autre jour à Raymond. Puis quelqu'un m'a dit, un cher étudiant m'a dit, oui, elle veut brouter. Je dis, c'est curieux. Est-ce que la vache veut brouter? Non, elle ne veut pas brouter, elle broute. Elle n'a pas de volonté, la vache. Elle a un instinct. Or, l'instinct, système ne vous donne aucune autonomie dans l'ordre de l'être. Quand vous suivez votre instinct, vous croyez que vous êtes libre, pas du tout. Vous êtes ligoté à ce que vous cherchez, le pot de confiture. L'instinct nous porte directement sur telle réalité, mais ne nous donne aucune autonomie dans l'ordre de l'être. L'autonomie dans l'ordre de l'être, vous l'expérimentez à quel moment ? Ah, quand vous choisissez. Vous voyez ce qu'on avait dit ? Le choix est dans l'ordre moral, ce qu'est la substance dans l'ordre de l'être. Là, vous comprenez l'analogie. C'est quand vous choisissez quelque chose que vous avez l'expérience d'une certaine autonomie. J'aurais pu orienter ma vie autrement. Et chacun d'entre nous, on peut, à un moment donné, dans notre vie, orienter notre vie. C'est pour ça que c'est si grave, le choix. C'est pour ça que le Père Jésuite fait des retraites d'élection. C'est choisir sa vie. Et ça peut rejoindre, en tant que croyant, la prédestination. Il y a des moments dans notre vie où nous touchons le choix de Dieu sur nous. Et nous savons très bien que nous sommes capables de dire non. Non, non, je vais en faire ma tête. Puis 10 ans après, on se dit, c'est idiot. Là, il y a un tournant, j'ai loupé. Parce que ça met longtemps avant de redécouvrir qu'on a loupé. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité. Oui, c'est important de voir à quel moment la métaphysique émerge dans notre vie. À quel moment la substance émerge-t-elle dans votre vie ? Le choix. L'orientation de sa vie. Une vocation, c'est un choix personnel qui touche notre finalité. Ah, disons pas, c'est un moyen. Oh là 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 là. Non. Acheter une veste, une cravate, des souliers, des moyens. Mais la vocation est beaucoup plus que ça. Un artiste, quand il choisit comme métier, c'est pas... On lui dira, c'est un moyen. Il dira, vous n'avez rien compris. C'est ma vie. Ah, si c'est votre vie, est-ce que c'est un moyen ? On dit la vie religieuse, c'est une vie. Donc c'est toute une orientation. Et le choix, j'ai choisi un ami. Est-ce que c'est un moyen, un ami ? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une orientation dans ma vie. Une orientation en vue de la finalité. Donc à ce moment-là, je touche ma prédestination. C'est ça qui est si impressionnant. Et c'est ça qui est si important. Il y a des moments où Dieu nous laisse libres. Dieu même se tait quelquefois pour mieux nous laisser libres. On aimerait bien qu'il se mette à parler. Mais il nous laisse libres. Il nous laisse choisir. Et c'est pour ça que, je vous l'ai dit l'autre jour, les stoïciens mettent la proie irrécis, le choix, qui détermine la personne. On se détermine dans sa personnalité, dans un choix. Et peut-être pour toute sa vie. C'est important ça, parce que, vous voyez, ça fait comprendre que la recherche de la substance, c'est pas du tout abstrait. C'est terriblement concret. On touche notre être. On touche notre être dans ce qu'il y a de plus fondamental, dans son autonomie. Alors la vache, autant que je peux le savoir, ne choisit pas grand-chose. Je ne crois pas qu'elle choisit, la vache. Elle est mue. Elle se meut, mais elle est mue. Par l'herbe ou par... C'est le TGV. Elle lève la tête. sa tête. Oh, quelle liberté étonnante elle a. Alors, ne vous posez pas la question, est-ce que la vache est une substance? Vous pourrez vous poser la question dans un jugement de sagesse. Autonomie dans l'être. Parce que la substance implique une autonomie dans l'être. C'est pour ça que la substance est le fondement de ma liberté. Et c'est pour ça que c'est si important de toucher ça. S'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de liberté. Alors c'est très curieux que les philosophes contemporains qui suppriment la substance, à partir de Hegel, on peut dire, la substance n'est plus ce qu'elle est. Elle est totalement relativisée. Alors on fait reposer la liberté sur quoi ? Sur la négation, l'annihilation, Sartre. Alors que la substance se fonde sur l'être, on la fait fonder sur la négation. Et tout le monde moderne fait reposer la liberté sur la négation. Alors plus vous niez, plus vous êtes libre. Ah, vous voyez le phénomène de la vocation. Niez, vous serez libre. Pas ça du tout. Découvrez votre finalité, vous serez libre. Découvrez votre amour, l'amour et vous serez libre. Le choix se fait dans l'amour. Et tout choix, c'est pour un plus grand amour. Vous ne choisissez pas pour découvrir votre liberté, quoi. Il n'y a plus de finalité. Vous ne choisissez pas pour découvrir votre indépendance. Alors votre choix, c'est le repos sur la négation. Montrer, rappeler qu'il y avait une question qui se posait. Est-ce que la vache a une substance? Elle a une nature. Parce que la vache n'est pas un cheval. Jusqu'au nouvel ordre. Question qui se posait. En Afrique, il y a ces questions qui se posent. Un père africain qui disait ça. Les sorciers, quelquefois, ont le pouvoir de se présenter d'une façon tout à fait différente. Se changer en singe. Et certains scientifiques qui l'ont vu. Alors, c'est du préternaturel peut-être. C'est peut-être le démon qui fait ça. Les apparences. Il peut changer les apparences. Ça c'est sûr. Il peut modifier. Mais est-ce que il y a une réalité profonde, ce n'est que les apparences de la fumée. Une fumée qui vous fait croire que vous êtes en face d'un singe. Extrêmement dense. Une fumée noire, n'est-ce pas, qui vous fait croire que vous êtes un singe. C'est très curieux, ces choses-là. Mais c'est intéressant, oui, métaphysiquement. Est-ce que le démon est capable de modifier l'être? Non. Il ne change que les apparences. Ça, c'est la théologie. Puisqu'en philosophie, je ne peux pas parler du démon. Il change les accidents. Il change la figure. Mais il ne change pas la substance. Alors, c'est une question intéressante. Est-ce que l'homme seul a une substance? Bon, jusqu'au nouvel ordre, j'ai découvert la substance à partir du je suis. Ceci est. Et je dis que l'homme a nécessairement une substance pour fonder son autonomie, pour expliquer radicalement son choix. Un choix important dans sa vie. En dehors de l'homme, je n'en sais rien. Soyons très modestes. Nous n'en savons rien. Je peux dire que la vache est une nature. Qu'elle est vivante et qu'elle est nature. Et que sa finalité, c'est de reproduire d'autres vaches. Je ne crois pas que la finalité de la vache, c'est de donner du lait pour son maître. Je ne crois pas. Elle donne du lait pour ses petits. L'art est intervenu et a modifié. de là, on a dû les pasteuriser. C'est l'art qui pousse jusqu'au bout et qui fait dévier. C'est important, c'est tout le monde. Le Saint-Père soulève ces problèmes-là dans son encyclique. Si on voit bien son encyclique, jusqu'où l'homme peut-il remplacer la nature? Jusqu'où l'homme peut-il faire dévier la nature? L'écologie. Jusqu'où il doit la respecter? Donc je dois voir, je dois toujours distinguer ce qu'est la nature, ce qu'est l'œuvre d'art. La distinction matière-forme dans l'œuvre d'art, la distinction matière-forme dans les réalités naturelles. Et je la pousse jusqu'au bout, la distinction matière-forme du côté métaphysique. Alors je me pose la question, vous voyez, en quoi l'être? Autrement dit, y a-t-il dans la réalité que je considère comme être une cause matérielle qui constitue l'être? Est-ce que la matière constitue l'être? C'est très intéressant et important. Et c'est très actuel, ça. C'est très, très actuel. Il y a deux philosophes qui ont répondu nettement. Parce que la plupart des philosophes dans ce domaine-là ne disent rien. Il y a deux philosophes qui ont répondu. Averroès, pour la Grèce. Pour la Grèce, et après, pour l'Espagne, si vous voulez. C'est un philosophe arabe. Et Lénine, à la suite de Marx. Lénine dit que la matière est constitutive de l'être. Dialectique matérialiste. Autrement dit, tout être, du fait même qu'il est, implique la matière. Donc, négation absolue de l'esprit. Puisque l'esprit, par définition, c'est ce qui n'implique pas la matière. Mais voyez, poussez jusqu'au bout. Si vous prenez Teilhard, si vous prenez le dernier livre de Jean Guiton, la distinction entre matière et esprit diluée au nom de la science. Comme si la science pouvait nous parler d'esprit. Alors, il faut lire le dernier, la réplique de notre cher Jacques Vautier qui vient d'écrire un petit livre. Lettre écrite aux savants qui se prennent pour Dieu. C'est directement contre notre cher Jean Guiton. C'est des choses actuelles. Enfin, je crois que c'est un aspect où on touche directement notre monde d'aujourd'hui. Parce qu'on peut être matérialiste sans le savoir. C'est la bêtise suprême. Je crois. Je crois que c'est la bêtise suprême. Être matérialiste sans le savoir. Au moins quand on le sait. Ça va. Alors manger de la confiture toute votre vie, c'est de la matière. Et une bonne matière. Pour considérer que la vie végétative, c'est ce qu'il y a de suprême. Si je matérialise, moi, je n'ai qu'un seul plaisir, c'est de vivre ma vie passionnelle et végétative. Être un bon vivant, comme on dit. Hein. Si à l'esprit, hein, c'est autre chose. La matière est pour l'esprit. Donc la question est très très importante, elle n'est pas commode à bien poser, mais elle est très importante. Y a-t-il une cause propre selon la matière? Une cause propre matérielle de l'être, de ce qui est, comme tel? Alors la grosse objection, existe. j'analyse, je recherche un principe. Je ne suis pas au niveau existentiel. C'est l'analyse. Y a-t-il quelque chose de premier dans l'ordre de l'être qui soit la matière? Ou est-ce qu'au contraire, la matière n'existe que d'une manière secondaire dans l'ordre de l'être? Que la matière existe, c'est bien évident. Toute la physique contemporaine le manifeste. Le manifeste ne dit pas ce que c'est que la matière. Elle manifeste la quantité, le mesurable. Que la matière existe, c'est bien évident, mon corps existe. Mais est-ce que la matière constitue ce qui est comme être? Voilà la question. Et voilà la question importante qu'il faut tous se poser dans un monde comme le nôtre, qui est matérialiste. Si on fait un peu de métaphysique, c'est justement pour éviter d'être matérialiste. Et dans un monde comme le nôtre, la métaphysique est urgente pour découvrir ce que c'est que l'esprit. Si vous ne faites pas de métaphysique, vous ne découvrirez jamais ce que c'est que l'esprit. C'est quand même important. Vous croirez le découvrir, mais en réalité, vous ne le découvrirez pas. Vous resterez dans la vie. Or, la vie, au niveau vie biologique, implique toujours la matière, qu'on appelle une matière vivante. Et on dit une matière vivante. Il faudrait se demander en philosophie si le terme matière vivante est métaphorique ou vrai ou propre. Puis-je qualifier la matière de vivante? Ou est-ce que c'est métaphorique? Comme je dis, l'âne travaille. La vache travaille, le bœuf travaille. La matière vivante, le bœuf travaille, est-ce que c'est du même ordre métaphorique? Seul l'homme travaille, il se sert du bœuf pour l'aider, comme il se sert de la machine. Est-ce que la machine travaille? Oui, c'est très curieux parce que le langage nous aide à penser. Mais quand il y a dans la métaphore remplace l'attribution propre, il y a un glissement dans le langage. Et petit à petit, on ne voit plus l'aspect propre et l'aspect métaphorique. Et ce glissement fait qu'on considère que ce qui est donné d'une manière métaphorique est propre. Et alors, c'est ça qu'on appelle l'inflation du langage. Et petit à petit, on ne voit plus les distinctions. Mais c'est évident que la matière existe. Donc si la matière existe, je suis tout à fait d'accord que c'est évident que la matière existe. Puisque j'existe dans mon corps. Et que mon corps est lié à tout le monde physique. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la matière constitue l'être? Or, pour comprendre ça, il faut analyser l'être. Si vous n'analysez pas l'être, vous restez devant des faits existants, et vous n'avez pas analysé l'être. Et n'ayant pas analysé l'être, vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez dire, oui, j'ai constaté des réalités qui existent et qui sont matérielles. Voilà. Mais est-ce que l'être implique dans sa structure la matière? Il faut tous pouvoir répondre à cette question. Adéquatement. Quand vous serez devant des matérialistes, et vous serez tous devant des matérialistes, parce qu'ils sont quantité aujourd'hui. Le positivisme conduit au matérialisme. Le positivisme, voyez ce que ça veut dire, c'est de considérer que seule la science positiviste, la science positive, est la seule connaissance. Positivisme. parce que le positivisme implique une connaissance de mensuration. Je mesure pour connaître. Et donc, je ne quitte pas le domaine quantitatif. Et je reste dans le domaine quantitatif. Et quand on reste dans le domaine quantitatif, on ne quitte pas la matière. Et un positiviste est amené à considérer que l'être comme tel est constitué par la matière. D'où l'importance de cette question métaphysique. En quoi l'être? Je réponds cette interrogation. En quoi est l'être? N'a pas de sens. Pas une question qui n'a pas de sens. Si vous êtes intelligent, vous pouvez répondre imaginativement. Vous ne pouvez pas répondre intellectuellement. Pourquoi cette interrogation n'a pas de sens? Parce que nous avons vu que ce qui constitue l'être, c'est la substance. Et la substance est source de détermination. J'ai découvert au point de vue philosophique que la matière n'est pas la forme. Que la matière est source d'indétermination. Que la matière comme telle est source d'indétermination. C'est la source de toute potentialité. Puisque ce qui est a comme source première, source propre, la substance, et que la substance est source de toute détermination. Je peux dire, puisque ce qui est premier dans l'être, c'est la substance, je peux dire immédiatement que la matière, source d'indétermination. L'indétermination radicale, la matière, elle ne constitue pas l'être, elle n'est jamais première. Voyez le raisonnement métaphysique. C'est pour ça que c'est si important de découvrir la substance. Si vous découvrez vraiment la substance, comme source propre de ce qui est, vous vous libérez du matérialisme. Votre intelligence se libère de cela. Et votre intelligence alors peut, à partir de là, découvrir ce qu'elle est. Si la substance est l'objet propre intelligence. C'est cette découverte de la substance qui vous donne la première détermination fondamentale de votre intelligence. C'est par là que votre intelligence commence à être intelligente, à connaître, à être actuée, par l'être, par ce qui est, mais dans ce qu'il y a de fondamental. Pas dans ce qu'il y a de secondaire. Des quantités d'intelligence humaine restent toujours au secondaire. Et ne dépassent jamais cela. Et par le fait même, ces intelligences ne s'éveillent pas. Elles restent endormies toute leur vie. Et c'est pour ça qu'elles peuvent être en connaturalité avec la matière. Ils ne comprennent pas. Il y a en elle quelque chose qui est au-delà de la matière et qui est la structure propre de ce qu'elles sont, la structure de l'esprit. Et la philosophie de la libération, libérer l'intelligence de cette empreinte emprise si forte de la matière. Une emprise, mais prodigieuse. C'est ce qui caractérise notre monde. Notre monde est englué par la matière. Et l'intelligence moderne risque de rester évidemment, on dit que la matière est divine. Déjà, la matière est divine. C'est une manière de s'en tirer. Hein. Je mets le divin dans la matière. Comme ça, je dis que mon intelligence est divine. Mais c'est plus l'intelligence, c'est la matière. C'est en ça, vous voyez, que Teilhard et Lénine se rejoignent. Et c'est pour ça que Garrotti mettez sur son bureau Marx, Teilhard. À droite, Teilhard, à gauche, Marx. Et de temps en temps, à gauche, Teilhard et à droite, Marx. Ça revenait au même. Oui, à première vue, parce que ça, c'est, on l'a dit, on l'a redit, que Garrotti avait ça. C'était pas seulement symbolique. Il y avait derrière quelque chose de très profond. Et on retrouve ça, parce que Teilhard révit vite dans ce petit livre de Guiton. On voit là comment on peut, une intelligence qui pourtant est transformée par la foi chez Guiton, chez le père Teilhard. Malgré ça, la foi ne pénètre pas dans leur intelligence. Pour leur faire comprendre que leur intelligence est faite pour Dieu et que Dieu n'est pas lié à la matière. Il est esprit. Alors évidemment, sentir en disant que la matière peut se transformer en esprit selon l'évolution, on ne l'a jamais vu. Pour un croyant, l'esprit vient directement de Dieu. Notre âme spirituelle est créée par Dieu. Et elle est créée par Dieu parce qu'elle est esprit. Tandis que la matière, ben oui, elle est dans le devenir. Vous voyez, on retrouve la distinction être et devenir, fondamentalement. La matière est première dans l'ordre du devenir. La substance est première. Et j'insiste un tout petit peu, parce que je me suis aperçu que si je n'insistais pas, on passait d'œuvre très vite, et puis on ne voyait pas toutes les conséquences. On ne saisissait pas vraiment cette distinction matière-forme. Et quand on la transpose, on voit que la matière n'est pas première dans l'ordre de l'être. Elle ne peut pas être principe de ce qui est. Le principe veut dire qu'on est premier. Principes, on est premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. La matière n'est pas principe dans l'ordre de l'être. Alors, comment la matière s'introduit-elle dans l'ordre de l'être? C'est intéressant ça, puisque mon corps est matière. Comment elle s'introduit? Par la porte du comment. Là, vous voyez, c'est là aussi comme c'est curieux et comme c'est intéressant de voir Auguste Comte distingue le pourquoi du comment. Distinction intelligente d'Auguste Comte au point de départ. Puis Auguste Comte dit ensuite le pourquoi, supprimons-le. Le positivisme ne se pose jamais la question du pourquoi. Parce que pour lui, c'est infantile. positivistes sont infantiles. La maturité d'intelligence, c'est de se poser la question du comment et non pas du pourquoi. Le pos grec, le comment. Comment l'homme peut-il vivre? Eh bien, c'est très curieux, c'est que la matière est source radicale du comment pour l'homme. Parce que le comment, c'est le corps. Et ça, je touche la matière. La matière se réintroduit en métaphysique par l'interrogation du comment. Et c'est le comment radical. Pourquoi? Parce que la matière est source d'indétermination. Elle est source du devenir. Tout devenir, radicalement, touche la matière. Même le devenir de l'esprit est lié à la matière. Je parle en philosophe. Hein. Est-ce que vous pourriez vous poser la question, est-ce que l'ange a un devenir? Est-ce que le devenir est lié à la créature ou à la matière? Ça, c'est une question de théologien. Très, très importante. Hein. Et le philosophe peut s'imposer aussi une fois qu'il a découvert l'esprit, mais pas avant. Donc il peut s'imposer dans un jugement de sagesse. Est-ce que le devenir est lié toujours à la matière, ou est-ce que le devenir est lié à la potentialité radicale de la créature? Alors évidemment, il répondra que c'est lié à la potentialité radicale de la créature dans un jugement de sagesse, mais pas tout de suite. Le comment, vous voyez, s'introduit. Je veux dire, grâce au comment, j'introduis la matière au niveau métaphysique. C'est très curieux. Le comment métaphysique, c'est la matière. Vous pourriez dire ça. Ça vous aide peut-être à comprendre ce qu'il y a de radical dans la matière. Vous voyez, j'ai découvert l'ousia, la substance. Et je me pose, comment ma substance se réalise? Alors, je passe par mon âme, et je vois qu'en effet, il y a âme et corps. Ma substance se réalise en étant corporelle. Je suis en face d'une substance corporelle, ce que Descartes a très bien compris. La substance pensante et la substance mesurable, quantitative. Au fond, c'est vrai que quand je pose la question comment ma substance se trouve réalisée, elle se trouve réalisée dans un individu. Je suis un individu. Et l'individu implique matière, quantité. Et l'individu ne fait qu'un avec ma substance. Ma substance est individuée. Alors vous voyez cette chose très curieuse et très intéressante de voir que par le corps, uni substantiellement à mon âme, je suis en présence d'une substance individuée qui implique la matière, qui implique la quantité. Parce que je suis individué par ma matière, par la quantité. Et étant en présence d'une substance individuée, je peux dire que la matière est donc saisie comme faisant partie de ma substance. Mais substance, principe. Alors là, je distingue bien. J'ai découvert la substance en posant la question du pourquoi. Et j'ai découvert la substance. J'ai découvert donc la substance en tant que principe. Principe dans l'ordre de l'être. La substance principe dans l'ordre de l'ordre de l'être n'est pas individuée, c'est un principe. Mais, et principe dans l'ordre de l'être, donc, source d'exister. Comment ce principe va-t-il de fait exister? Il va exister en impliquant le corps, en assumant la matière. Quelque chose qui, de fait, par rapport à la substance, est accidentel. C'est pas premier, le corps. J'ai saisi ma substance indépendamment du corps, comme un principe radical de ce qui est. Je l'ai saisi par mon corps, c'est bien évident. Je saisis par mon corps à travers toutes mes opérations, à travers le sujet Pierre, qui était individué. Mais je saisis la substance comme au-delà de l'individuation, comme quelque chose de plus radical, parce que je le saisis au niveau du principe, selon la forme de ce qui est. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de saisir que la matière est un comment substantiel au plan métaphysique. Mais je passe de l'ordre du pourquoi à l'ordre du comment. Et donc, la matière ne constitue pas l'être. Elle l'individualise. Et l'individuation n'est pas la constitution de l'être. Intégrer pleinement et totalement dans ma personne. Ce qui montre bien que la personne, ce n'est pas la substance. Quand nous verrons au terme de notre métaphysique ce qu'est la personne humaine, on verra que la personne humaine implique la matière, implique le corps. Mon corps fait partie de ma personne. Parce que la personne assume le corps. Donc la dignité de la matière, c'est d'être personnel, pas divine. D'être personnel, c'est très vrai. Elle fait partie de ma personne, la matière. Mais par le comment. Alors vous voyez, on touche quelque chose d'extrêmement important par rapport à notre monde d'aujourd'hui, où il y a une confusion totale entre le point de vue de l'analyse philosophique et comment les principes se trouvent réalisés. Une confusion qui est très vieille, puisque, de fait, la scolastique décadente ne fait plus la distinction entre le pourquoi et le comment. Il a fallu Auguste Comte pour nous remettre en face de la réalité. Est-ce qu'il faut répondre à Auguste Comte? Je n'ai pas le droit de ne pas répondre à Auguste Comte. Auguste Comte est source de tout positivisme. Le néo-positivisme ne fait que mettre un néo. Mais le positivisme est toujours présent. Et le positivisme, vous le verrez, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre monde d'aujourd'hui à s'en libérer. Chacun d'entre nous, hein. C'est ce qui est pas difficile. Et puis, ce que vous rencontrerez, la plupart des savants, 95% des savants sont positivistes. Aujourd'hui, ils sont positivistes. Et par le fait même, ils deviennent agnostiques par rapport à l'esprit. Ils sont agnostiques par rapport à l'esprit. L'esprit comme tel leur échappe complètement. Alors, il faut pouvoir répondre à philosophiquement, pas pas seulement en tant que croyant. En tant que croyant, vous pouvez dire, je crois en mon âme spirituelle, je crois en Dieu qui est esprit. Donc votre positivisme, il est au seuil de l'esprit, mais il ne me dit rien d'esprit. Il me montre les effets de l'esprit. Si vous êtes positiviste, c'est parce que vous avez un esprit. Ça, c'est sûr. La vache ne dit pas qu'elle est positiviste. Non. C'est l'homme qui est positiviste. Mais les positivistes, non pas en tant que savant, mais en tant qu'homme. C'est-à-dire en tant que philosophe, qui s'ignore. Jamais oublier ça. La science comme telle n'est pas positiviste. La science comme telle est intelligente. Et donc elle n'est pas positiviste. Le positivisme manque d'intelligence. Puisqu'il confond ou il ramène le pourquoi au comment. Il demeure dans le comment et uniquement dans le comment. Parmi les idéologies modernes, le positivisme est fondamental. Donc, je crois que vous sentez un peu comment la question en quoi est l'être est une question fondamentale pour nous. Et comment cette question n'a pas de signification. Parce que seul le pourquoi constitue l'être. Première et que l'être est premier dans l'ordre de la vie de l'intelligence. Mais je peux me poser comment, de fait, la substance va se réaliser. Et là, tout de suite, je touche la matière et le corps. La troisième question qui se pose au plan métaphysique, la troisième question, d'où vient l'être? Permet de découvrir la cause efficiente. Quelle est la cause efficiente de ce qui est comme être? Et là encore, philosophie de l'art. Dans la philosophie de l'art, je distingue la cause formelle, la cause matérielle et la cause efficiente. D'où vient cette œuvre? Vous savez, quand on marque sur un tissu, la marque, sur un outil, tout ça sort, cause efficiente. Ça sort de telle usine. Le TGV, il sort de telle usine. Il est la gloire de cette usine. Parce qu'il est l'enfant de cette usine. Donc il en est la gloire. Puisque les enfants, c'est la gloire des parents. Du moins, ils doivent l'être, la gloire des parents. Alors, en tant qu'ils sont la gloire des parents, ils manifestent qu'ils sont sortis d'une bonne souche. D'où ça vient? L'origine. Toute la question d'atavisme. Je me pose la question, d'où vient ce qui est en tant qu'être? Bien, là encore, je dis, cette question, je ne peux pas y répondre. Elle n'a pas de sens au plan métaphysique. Au niveau de la science métaphysique, d'analyse métaphysique, pas de sens. Ça vous choque. Parce que vous savez pas répondre, mais oui, c'est très simple, ça vient de Dieu. Eh bien non, vous ne pouvez pas répondre ça. Parce que Dieu n'est pas cause propre de l'être comme être. Ça, c'est pas commode à bien comprendre. Et ça nous choque en tant que croyants. Ça nous purifie notre foi, ça. Terriblement. Et c'est bon. Parce que c'est là, on voit tout de suite, que la métaphysique n'est pas la foi. La métaphysique est une...